Bonjour les amis. Avez-vous fait bon voyage? Êtes-vous prêt à me suivre dans de nouvelles aventures? Bien. Mais avant toute chose, je me présente. Alain, meunier à Barbaste. Ici, le pays d'Albret se vit au fil de l'eau. Et oui, on pourrait presque dire que la ville ne tient qu'à un fil. Le fil de la Gélise. La Gélise, c'est le cours d'eau qui nous nourrit, qui nous transporte, qui nous offre son énergie. Elle se jette dans la Baïse, qui elle rejoint la Garonne qui termine sa route à Bordeaux. Quel voyage! Vous imaginez l'importance qu'avait la Gélise dans l'économie locale? Le trafic fluvial permettait de transporter des biens essentiels à la consommation et au commerce. Les denrées alimentaires, produites dans les environs comme la farine, les vins, les armagnacs, étaient expédiées sur des gabarres jusqu'à Bordeaux, dans un premier temps, puis jusqu'à Saint-Domingue où les comptoirs de colonies étaient nombreux. Les gabarres, ce sont des bateaux particulièrement adaptés à cette navigation fluviale. Leur fond est plat et permet de passer même dans les zones à faible profondeur. Ça tombe bien, la Gélise, comme la Baïse, voit leurs rives irrégulières, très verdoyantes, grossissant ou se rétrécissant, réservant bien des surprises dans leurs méandres. Grâce à ces bateaux, la navigation est vraiment accessible et tranquille. Et comme en plus, on prête beaucoup de vertu à l'eau de la Gélise, je suis sûr que vous prendrez le temps d'une balade sur ces flots. On raconte qu'en 1580, la reine Margot a donné 9 écus à un valet pour avoir tiré de l'eau de Gélise pour son bain. Faisait-elle la peau aussi douce à la reine qu'un lait d'ânesse à celle de Cléopâtre? En tout cas, la Gélise saura tout entière se montrer douce sur votre passage. Et sur ses rives a poussé un édifice vraiment particulier, dont je vais vous en résumer les caractéristiques. Il s'agit du moulin des Tours. Cet édifice impressionnant a été bâti en pierre de Vianne. Cette pierre a des qualités qui ont fait sa réputation. Ce calcaire blanc, directement extrait des rives de la Baïse, a la particularité de changer de couleur en fonction de l'ensoleillement. Il peut en effet passer du gris au blanc le plus pur ou encore arborer des nuances roses ou jaunes. Cette pierre a servi à la construction de nombreux édifices, de l'église de Vianne au quai de Bordeaux, et il continue d'être extrait. Une carrière est en effet toujours en activité. La deuxième qualité de construction du moulin des Tours est d'être construit sur un axe hautement stratégique. D'un côté, la Gélise et ses possibilités de navigation, de l'autre, la Ténarèse. Cette ancienne voie romaine reliait Bordeaux à l'Espagne en passant par les Pyrénées. Cette route était très fréquentée tant pour sa praticité que pour sa gratuité. Elle ne traversait en l'occurrence qu'un seul pont et permettait de minimiser les péages. Le moulin des Tours va tout naturellement trouver sa place, flanqué entre ces deux axes de communication. Mais il n'a pas toujours été moulin. Vous voyez comme il est massif et imposant? Il a d'abord eu pour vocation d'être un château au fort caractère défensif, et plus précisément pour défendre le pont roman sur lequel il a été accolé. Ce pont a été créé pour remplacer un gué. Il est pourvu de 10 arches cintrées, garnies d'avant et arrière-becs. Ce sont ces avancées qui servent à casser le cours du fleuve pour en ralentir le débit et protéger habitations et populations lors des grandes crues. Sur le pont même, ces dégagements permettaient aux gens de se dégager de la circulation des charrettes. Le bon roi Henri IV l'empruntait régulièrement au retour de ses chasses pour se rendre au moulin qu'il aimait tant, puisqu'il demandait à se faire appeler le moulinier de Barbaste, encore un nouveau sobriquet pour l'un des rois de France les plus populaires. Revenons à notre forteresse. Outre la défense du pont, elle permettait aussi de récolter l'octroi, un impôt, au profit du seigneur. Cette taxe était prélevée sur les utilisateurs du pont. Un moyen facile pour le seigneur d'en assurer l'entretien, tout en s'enrichissant. La forteresse possède un plan carré de 15 mètres de côté. Ses quatre angles sont chacun dotés d'une tour. Fait plutôt rare et surprenant, elles sont toutes les quatre de taille différente, de 26 à 29 mètres de hauteur. Pourtant crénelée et dédiée comme la plupart des tours médiévales à la défense, on ne sait toujours pas comment justifier cette disparité. La légende prétend que le propriétaire ait fait construire les quatre tours suivant l'âge de ses quatre filles. Mais peut-être est-ce tout simplement le paysage et des stratégies établies en fonction qui ont décidé de cette particularité. La forteresse dispose d'autres moyens défensifs. Deux bretèches, une au sud, protégeant l'entrée du moulin, et l'autre au nord, contrôlant la sortie des eaux, des meurtrières pour permettre aux archers de viser sans être inquiétés, et l'incontournable chemin de ronde sur les tours et le corps du logis. Le moulin des Tours passera dans diverses mains tout au long de son existence. On estime sa fondation entre 1180 et 1220 par les moines de l'abbaye de Cîteaux. Il deviendra ensuite la propriété d'Amanieu VII, l'un des réputés seigneurs d'Albret vers 1308, avant de devenir possession royale avec Henri IV, descendant de cette grande seigneurie. Henri IV, comme je vous en ai parlé précédemment, affectionnait profondément cette terre d'Albret et, par voie de conséquence, le moulin des Tours. Celui-ci jouxtait effectivement sa ville de résidence, Nérac. Il le fit alors entièrement restaurer en 1579. Heureusement, cela lui permit sans doute de mieux résister aux sièges de 1621 et 1653, ainsi qu'aux agressions du temps. Louis XIV en cédera plus tard la propriété au duc de Bouillon, qui resteront maîtres des lieux jusqu'à la Révolution. Voici le parcours historique de ce moulin. Il est temps à présent que je vous en dévoile un peu plus quant à son exploitation. Rien de plus facile pour un meunier. Dès sa construction, il l'impressionne par son volume. Il est bâti sur un fond rocheux, un chenal qui l'alimente et qui est capable de faire tourner deux roues. La plus grande faisait 1,20 m de large sur 4,40 m de diamètre et pouvait actionner 4 paires de meules. Et ce dès le XIIIe siècle. De quoi alimenter non seulement le seigneur, sa cour, mais également tous ses sujets. Si pendant les guerres son activité se voit parfois réduite, voire supprimée, il restera toujours en état de fonctionnement, capable des plus grands rendements. Il participera notamment à l'essor de Nérac en produisant des farines de qualité dédiées à l'exportation depuis Bordeaux. Finalement, le plus grand danger guettant le moulin des Tours viendra tardivement, au siècle dernier. Le liège, qui au XIXe et XXe siècle est produit en quantité très importante dans la région, remplace peu à peu le blé. Le principal problème avec le liège, c'est qu'il est auto-inflammable. C'est un produit sensible, mais qui est au cœur de l'industrie locale et contribue à son tour au fort développement des villes qui le produisent. C'est sans grande surprise que deux incendies d'une violence inouïe ravagent le moulin des Tours en 1904 et 1937, alors que la bâtisse servait d'entrepôt de stockage à toute cette matière première. Quel dommage! Le dernier propriétaire qui avait racheté le moulin en 1864, Monsieur Bransoulier, avait fait des travaux considérables pour le moderniser. Il avait fait installer des turbines, des machines à vapeur pour faciliter les tâches de criblage et d'écrasement du grain et regrouper toutes les activités sur le site. Il parvient même à mettre au point un procédé de conservation de la farine afin de la rendre encore plus stable et imputrescible pour les longs voyages en mer. Et même lorsque Saint-Domingue ne sera plus française, les îles d'Amérique continueront à consommer cette farine inscrite dans leurs nouvelles habitudes alimentaires. Monsieur Bransoulier, qui a un certain goût pour la démesure, fera en outre construire une passerelle sur la Gélise et aussi édifier une façade baroque en trompe-l'œil en face du site. Il désirait modifier le panorama qui s'offrait à lui depuis sa chambre et ne lui plaisait guère. En 1880, la société est placée en liquidation générale et mise aux enchères, y compris le moulin. La Société des Moulins d'Henri IV verra ensuite le jour, dirigée par Edmond Coppen, et connaîtra une activité florissante jusqu'en 1905. Ce sera la fin de la grande industrie minotière. Les minots étaient les barriques de bois dans lesquelles on plaçait la farine pour la transporter convenablement. En 1889, l'ensemble constitué par le pont roman et le moulin des Tours est classé monument historique. Un siècle plus tard, dès 1987, une association bénévole voit le jour. En partenariat avec la Conservation Générale des Monuments Historiques et le Syndicat Intercommunal du Pays d'Albret, qui est propriétaire, les Amis du Moulin des Tours se consacrent à restaurer et à sauvegarder le site. Grâce à elles et sur rendez-vous, vous pourrez, si vous le souhaitez, visiter entièrement le site du Moulin des Tours. La Fête des Moulins, organisée le troisième dimanche de juin, est aussi l'occasion d'animations qui ramènent de la vie au cœur de cet édifice vraiment attachant. Mais si l'on sait travailler de ses mains à Barbaste, le labeur peut aussi vite être remplacé par une foule de loisirs. Et croyez-moi, je ne suis pas le dernier à en profiter. Barbaste est au cœur d'un site naturel réellement privilégié. La Gélise, bien entendu, assure déjà un paysage varié et luxuriant, mais de l'autre côté se trouve aussi la forêt, qui évoque déjà les Landes et son horizon infini de pins. Les vignobles affleurent sur les coteaux et vous laissent présager balades apaisantes et dégustations. Si Barbaste sait être bleue au fil de l'eau, elle est également bien verte dans sa physionomie et ses loisirs. Un 18 trous a d'ailleurs été aménagé à l'orée de la forêt. Et si vous souhaitez compléter la visite du Moulin des Tours par d'autres édifices exceptionnels, je vous donne tout simplement rendez-vous à la poste. Ce bâtiment fait en effet partie d'un ancien château construit dans la première moitié du XVIIe siècle. La propriété avait été divisée en deux en 1841. La partie sud, donnée en 1879 au bureau de bienfaisance de Barbaste, est celle qui abrite actuellement la poste. La partie nord, quant à elle, a malheureusement brûlé en 1933. Les deux ailes de dépendance, qui achevaient en forme de U cet ensemble architectural, ont également été détruites. Si les maîtres de l'eau, comme moi, ont souvent été craints par leur mystérieuse capacité à dompter l'eau et à en réguler le débit, j'espère vous avoir apporté un peu de lumière concernant toutes les richesses de Barbaste. En quittant le village, vous pourrez faire route jusqu'à un village voisin, Lavardac. Cette ancienne bastide française a elle aussi été bâtie en bordure de Baïse. Elle possède un petit port ainsi qu'une église romane qui mérite un petit détour. La mairie de Lavardac, réédifiée en lieu et place de l'ancienne halle, comporte une gabarre en relief entre deux arcs du portique. Elle rend hommage à la dextérité des maîtres de bateau qui, connaissant Gélise et Baïse comme leur poche, savaient éviter les embûches de la rivière. Allez les amis, je vous souhaite bon vent. À très bientôt sur les rivages du pays d'Albret.